Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 30 mars 1950, disparaissait Léon Blum, célèbre chef du gouvernement du Front populaire de 1936 à 1938. Dans cette période de l'entre-deux-guerres où la politique était particulièrement violente et tourmentée, l'extrême droite a fait de lui l'homme le plus détesté de France. Aujourd'hui, je vous parle de cet intellectuel idéaliste qui fut l'un des fondateurs du socialisme français. Dans tous ses combats, il n'a jamais été médiocre. Après avoir refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, Léon Blum est arrêté. Il est interné au château de Chazeron, dans le Puy-de-Dôme, en compagnie de Paul Reynaud, de Georges Mandel, d'Édouard Daladier et du général Gablin. Tous sont jugés responsables de la défaite de 1940, accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et de trahison. En février 1942, ils sont conduits devant la cour de justice de Rion. Le seul à se défendre réellement, avec courage, est Léon Blum. Son plaidoyer est si brillant qu'il contraint le gouvernement de Vichy à suspendre le procès. C'est le moment où les Allemands envahissent la zone libre. Il est de nouveau interné, cette fois-ci à la forteresse de Bourassol, près de Vichy, avec ses compagnons. Ils n'ont pas le droit de communiquer les uns avec les autres. Mais Léon Blum parvient à correspondre avec une certaine Jeanne Lévillier. Il est veuf depuis 1938 de sa deuxième épouse Thérèse, emportée par un cancer généralisé. Elle avait été le grand amour de sa vie. Depuis ce moment, et peut-être un peu avant, sa petite cousine, Jeanne Lévillier, éperdument amoureuse de lui, fera tout pour embellir et adoucir son existence. Le 31 mars 1943, Léon Blum, qui a 71 ans, entame son 30e mois de captivité. Il voit arriver à la forteresse des officiers allemands qui viennent l'enlever ainsi que ses compagnons. Léon Blum a juste le temps de griffonner quelques mots à Jeanne, qu'il appelle Jeannot. À l'instant, entre des officiers allemands, je pars à midi, les dés sont jetés, je te promets de revenir intact. Les détenus sont conduits à l'aéroport de Clermont-Ferrand et de là, ils partent en avion pour l'Allemagne. Blum est séparé de ses compagnons d'infortune. Il débarque en Allemagne dans un lieu qui lui est inconnu. En fait, l'endroit s'appelle Buchenwald. Cependant, il n'est pas soumis au même traitement qu'un déporté ordinaire. Laissons son biographe, Jean Lacouture, nous expliquer.
Installé dans un baraquement proche du quartier des officiers, à la limite extérieure du camp, il ne sait même pas qu'il vit dans le sinistre Buchenwald dont il a entendu parler par ses camarades anti-nazis. Ce n'est que plus tard qu'il en prendra conscience. Le local est propre, assez bien chauffé. Il peut travailler, dispose d'un poste de radio et reçoit la presse, celle de Paris, de la collaboration bien sûr, l'œuvre ou le matin. Mais il y a tant de façons de lire un journal, fut-il ignoble.
Léon Blum découvre que la chambre voisine de la sienne est occupée par Georges Mandel. Celui-ci, ministre de l'Intérieur en 1940, s'était opposé à l'armistice. Georges Mandel était alors parti vers le Maroc. Arrêté et ramené en France, il a été livré aux Allemands par Vichy. Ils sont libres de se rencontrer, échangent des livres et des idées, jouent au billard, bref, se soutiennent et vont devenir amis alors que la vie politique les avait opposés auparavant. Dès son premier jour à Buchenwald, Léon Blum avait écrit à Jeannot, nous dit Jean Lacouture.
« Vous pourrez peut-être me rejoindre. » Il précise qu'elle sera enfermée, que nul retour ne sera possible, que ce voyage et cette réunion présentent les pires dangers. Comment ne le saurait-elle pas? Mais que pèsent ces risques, mis en balance avec la perspective de le rejoindre? Tandis que Léon Blum, le 14 avril et le 3 mai, adresse des mémoires en ce sens aux autorités du camp et de Berlin, alléguant notamment leur souhait commun de se marier, Jeannot multiplie les démarches auprès de la Gestapo parisienne, faisant valoir qu'elle est apparentée aux déportés. Que les nazis l'aient écouté est l'un des mystères de cette extravagante affaire. Le fait est que le 3 mai, Blum recevait de sa belle-fille, leur alliée, enthousiaste, une lettre indiquant que Jeannot a beaucoup d'espoir.
Le 30 juin, après un rocambolesque voyage par Berlin, Jeanne débarque à Buchenwald, trouvant Léon Blum dans sa chambre en train de trier des haricots et des lentilles. Ils se marient. Léon Blum dira « Ma vie est transformée ». Désormais, ils sont deux pour affronter cette captivité. Elle est plus légère que ce que vivent les déportés du camp si proche. Toutefois, aucun espoir ne leur semble permis. Ils savent désormais qu'ils sont des otages. Mais avant ce tragique épisode, quel a été le parcours et la vie de Léon Blum ? Il est né en 1872 dans une famille d'origine juive alsacienne qui a réussi dans le commerce des tissus. Le train de vie de ses parents est plus qu'aisé. Il fera ses études à Paris au lycée Charlemagne, puis à Henri IV, où il prépare le concours d'entrée à Normale Sup. Il intègre brillamment l'école de la rue d'Ulm, mais en sera exclu au bout d'un an. Il a détesté cette usine à élite où se forment les chiens de garde de la bourgeoisie. Il s'inscrit alors à la Sorbonne, fait ses études de droit et de lettres. Il est reçu au concours du Conseil d'État en 1895. À la même époque, il fait ses débuts de critique littéraire dans la célèbre revue blanche des frères Natanson. Il tient aussi une chronique théâtrale dans la revue Comédia. Il rencontre Maurice Barrès, Stéphane Mallarmé, Paul Claudel, Paul Verlaine, mais aussi Guillaume Apollinaire et Tristan Bernard. Ce dernier sera un de ses grands amis. Il fréquente un univers très brillant. Dans le salon de Madame de Caillavet, il rencontre aussi Anatole France. En 1896, juste après son entrée au Conseil d'État, Léon Blum a épousé Lise Bloch. Le couple s'installe rue du Luxembourg, l'actuelle rue Guynemer. Il publiera son premier livre en 1901, Nouvelle conversation de Goethe avec Eckermann. Alors qu'il ne s'était pas fréquenté lors de sa courte année passée à Normale Sup, Léon Blum se lie avec le bibliothécaire de l'école, Lucien Herr. C'est lui qui va l'orienter vers le Parti socialiste. Léon Blum commence à se mêler aux luttes politiques à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Il va se faire défenseur de Zola au moment où celui-ci est condamné en 1898. Il est profondément dreyfusard. On sait que le combat sera long avant que le capitaine Dreyfus soit totalement blanchi et réintégré dans l'armée. C'est en 1897 qu'il rencontre Jean Jaurès. Blum a 25 ans, Jaurès 38. Léon Blum va tout de suite se considérer comme un disciple de ce socialiste convaincu. Laissons parler Thaddée Natanson, patron de la Revue Blanche.
Tout le temps que Jaurès a vécu, Léon Blum n'a fait que l'écouter. Il n'a jamais pensé qu'il eût plus ou mieux à faire, car ce maître a fait mieux que lui donner la foi. Il lui a fait voir qu'il l'avait.
Léon Blum confiera lui-même à André Gide « Cet homme-là, j'ai été son chien fidèle ». En 1899, il participe pour la première fois à un congrès socialiste et en 1901, il sera auprès de Jaurès pour la fondation du journal L'Humanité. Mais après le congrès du Parti socialiste en 1905, qui verra la création de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, Léon Blum quitte L'Humanité et s'écarte pendant près de 10 ans de la vie du Parti socialiste. La critique littéraire le passionne. Il donne des articles à la Renaissance latine, à l'Excelsior et au Matin. Il a 33 ans et vient d'être nommé maître des requêtes au Conseil d'État. Avec son épouse, il déménage pour s'installer dans un très grand appartement du boulevard Montparnasse. Il aménage un grand bureau-atelier. Il y accroche 2 grandes toiles de Vuillard prêtées par Alfred Natanson. Il consacre aussi beaucoup de temps à l'éducation de son petit garçon, Robert, né en 1902. Sa femme, Lise, est passionnée de théâtre et de musique. Boulevard Montparnasse, on rencontre Alfred Cortot, Gabriel Fauré et surtout Reynaldo Hahn, très lié à Léon Blum. Lise est une hôtesse remarquable, bien qu'un peu autoritaire et légèrement bas-bleu. Pendant les vacances, ils reçoivent beaucoup le monde des arts et de la littérature dans une villa d'Anguin, louée par leurs parents. C'est alors qu'il écrit son traité « Du mariage » en 1907. Blum fait scandale en développant la thèse de l'instinct polygamique de l'homme et en préconisant l'expérience sexuelle pour les jeunes filles avant le mariage. Cette vie, somme toute très agréable, prend fin en août 1914. L'attentat de Sarajevo avait été occulté à Paris par le procès de Madame Caillot. Madame Caillot était accusée d'avoir tué à coups de pistolet Gaston Calmette, le directeur du Figaro, pour l'empêcher de révéler certains documents compromettants. L'ultimatum autrichien à la Serbie, du 23 juillet, provoque la guerre. Jaurès se rend à une réunion d'urgence à Bruxelles de l'Union internationale socialiste. Blum l'accompagne à la gare du Nord. C'est la dernière fois qu'il verra Jaurès. À son retour de Bruxelles, le 31 juillet, Jaurès passe sa journée à l'Humanité avant d'aller prendre un verre au Café du Croissant. À 21h40, il est assassiné à bout portant. Blum se précipite chez les Jaurès où le corps du tribun a été ramené. Il éprouve un immense chagrin. C'est son maître en politique qui vient de mourir. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Léon Blum a 42 ans. Il n'est pas mobilisable, mais il souhaite servir. Il va le faire au sein du gouvernement d'Union nationale de René Viviani. Blum est chef de cabinet d'un des deux ministres socialistes du gouvernement, Marcel Samba, chargé des travaux publics. Blum y reste de 1914 à 1916. Ce ministère est un ministère clé. L'intelligence, les capacités d'organisateur et les connaissances juridiques de Léon Blum lui permettent de s'imposer. Il s'attaque à la reconversion des usines civiles à des fins militaires. Il le fait avec une grande efficacité. En 1916, il réintègre le Conseil d'État et se replonge aussi dans la vie du Parti socialiste. En 1919, il est chargé de rédiger le programme d'action du Parti socialiste. Cette même année, Blum est élu député de la Seine. Il entre définitivement en politique. Ses fonctions parlementaires étant incompatibles avec celles de conseiller d'État, il s'inscrit au barreau. En quelques mois, il devient l'avocat civiliste le plus réputé de Paris. Il va gagner beaucoup d'argent, éternel paradoxe du socialisme engagé. Cela ne le dérange pas du tout. Le grand tournant de sa vie politique va être le congrès de Tours. Il débute le 25 décembre 1920. Pour les congressistes laïcs, Noël ne compte pas. C'est la rupture. Blum est une des vedettes de la minorité hostile aux bolcheviques. Après avoir vainement essayé de maintenir l'unité du parti, lui qui était simplement secrétaire du groupe parlementaire socialiste devient le chef incontesté du parti socialiste minoritaire. Son paradoxe est d'être devenu chef de parti sans avoir jamais été réellement un militant. Il n'a que peu de contact avec le monde ouvrier. Et surtout, ses scrupules lui interdisent toujours les compromissions parfois nécessaires à l'action. Il est battu aux élections de 1928, mais fera quand même son retour à la Chambre des députés lors d'une élection partielle en 1929. Il est élu député de Narbonne et le restera jusqu'en 1940. Dès 1924, lors de la formation du cartel des gauches, il oriente le Parti socialiste vers la collaboration avec les radicaux. Mais jusqu'en 1936, il la limite à un soutien sans participation au gouvernement. Sa vie privée change, elle aussi. Sa femme, Lise, meurt en 1931. Il se remarie, 2 ans plus tard, avec Thérèse Pereira. Il la connaît depuis longtemps. Elle fait partie d'un groupe de musiciens et de peintres auxquels Blum aime se mêler. Thérèse a beaucoup d'esprit, d'entrain et de gaieté. Il est très amoureux d'elle. Le couple s'installe dans l'île Saint-Louis. Léon Blum sera parfaitement heureux avec elle jusqu'à ce que Thérèse soit emportée en 1938 par un cancer généralisé. Mais entre-temps, la carrière de Léon Blum a atteint des sommets. En mai 1936, l'Alliance des socialistes et des radicaux remporte les élections. Léon Blum devient chef du gouvernement du Front populaire. Il met en œuvre d'importantes réformes économiques et sociales. L'institution des congés payés le 8 juin et la semaine des 40 heures le 12 juin. Le gouvernement impose le contrôle direct de l'État sur la Banque de France le 24 juillet et la nationalisation des grandes usines d'armement le 11 août. Cependant, la situation financière est désastreuse. Blum est contraint de procéder à une dévaluation du franc. En février 1937, il annonce une pause sociale. Le début de la guerre d'Espagne jette le trouble dans le Front populaire. Blum est partisan de la neutralité à l'égard de l'Espagne, alors qu'une partie de ses amis souhaite qu'on apporte une aide financière et militaire aux républicains. Le Royaume-Uni fait savoir qu'il ne l'acceptera pas, cela pourrait remettre en cause son alliance avec la France. L'Allemagne et l'Italie soutiennent Franco et les nationalistes, l'URSS soutient les républicains. En France, le Front populaire se disloque. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1937, Léon Blum démissionne. Il revient au gouvernement de mars à avril 1938 avant de se retirer du pouvoir. Il est simple parlementaire et refusera de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940, comme je vous l'ai dit au début de ce récit. À Buchenwald, Léon Blum écrit beaucoup. Il s'astreint à des dialogues avec son épouse. De ces dialogues vont naître des notes qui formeront une suite et seront publiées sous le titre « À l'échelle humaine ». Un matin de juillet 1944, la Gestapo vient extraire Georges Mandel du baraquement où il cohabite depuis des mois. Ils ne savent pas encore que Mandel sera ramené en France où la milice l'assassinera dans la forêt de Fontainebleau. Léon et Jeanne raconteront ce qu'ils soupçonnaient sans réellement l'appréhender. Écoutons Léon Blum.
C'est aussi la rigueur de cette clôture qui explique un fait à première vue incompréhensible. Je veux dire notre ignorance si longtemps prolongée sur les horreurs indicibles qui se perpétraient à quelques centaines de mètres de nous. Le premier indice que nous avons surpris est l'étrange odeur qui nous parvenait souvent le soir par les fenêtres ouvertes et qui nous obsédait la nuit tout entière quand le vent continuait à souffler dans la même direction. C'était l'odeur des fours crématoires.
Le 1er avril 1945, un officier allemand les prévient qu'ils vont partir dans l'après-midi en voiture. Ils font partie d'un convoi qui traverse Weimar, puis Ratisbonne avant d'arriver à Dachau. Puis ils gagnent Munich et prennent la route d'Innsbruck en Autriche. Par la route du Brenner, ils se retrouvent en Italie. Un officier allemand se présente et leur dit qu'ils sont désormais sous la caution de l'honneur militaire de la Wehrmacht. Léon Blum et sa femme sont sauvés. Ils sont récupérés par les Américains. Le mardi 8 mai 1945, jour de l'armistice, un appareil de l'US Air Force les transporte à Naples au QG britannique du général Alexander. Ils seront soignés et logés pendant quelques jours avant de regagner Paris le 14 mai. Ils reprennent vie à Paris. Le général de Gaulle propose à Léon Blum un ministère d'État, il le refuse. Fin 1946, à la demande de Vincent Auriol, Léon Blum forme un gouvernement socialiste homogène qui ne sera qu'un cabinet de transition d'un mois, avant l'élection de Vincent Auriol, président de la République. Léon Blum restera l'homme des congés payés, des 40 heures et le principal inspirateur du socialisme français. S'il n'a plus des responsabilités politiques, il restera intellectuellement très actif jusqu'à la fin, notamment avec ses éditoriaux dans « Le Populaire ». Il s'éteint dans sa maison de Jouy-en-Josas le 30 mars 1950. Si cette plongée au cœur de l'histoire de Léon Blum vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ».
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vasseau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.